Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour pour une nouvelle chronique de l'ALEP avec Muriel Duguay. Bonjour Muriel.
Bonjour Corentin. Alors dans les précédentes émissions, on avait parlé de qu'est-ce que la nature et de la peur de la nature. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux besoins de nature. Cette émission est largement inspirée du livre de Besoins de nature de Louis Pinassou. L'idée que la nature, de la modeste plante verte à la pleine nature, en passant par les animaux familiers, le jardin et le bétail, est bénéfique pour la santé, vient de loin. Il y a 2000 ans, les taoïstes chinois créaient des jardins et des serres parce qu'ils les croyaient bons pour la santé. En Amérique, le pionnier de la santé mentale, Benjamin Rush, déclarait que creuser le sol a un effet thérapeutique chez les malades mentaux. Dès les années 1870, l'hôpital Les Amis des Quakers en Pennsylvanie consacrait une poignée d'hectares de paysages naturels et une serre à un traitement contre la maladie mentale.
Mais ça serait pas plus facile d'affronter la souffrance dans un environnement moins anxiogène que l'hôpital ?
Et oui, ce constat, des chercheurs américains et canadiens l'ont fait avant nous. Depuis une trentaine d'années, Cooper Marcus, Barnes ou Ulrich se sont intéressés à l'interaction entre environnement et patient. Ils ont constaté que lorsqu'il s'agit de psychiatrie, la satisfaction des patients était acquise plus aisément dans un environnement et apaisant, comme peut l'être un espace rempli de fleurs et d'arbres. À tel point que le jardin est aujourd'hui nommément cité dans le troisième plan Alzheimer pour les années 2008-2012. Il s'agit de rééduquer, de diminuer le stress et l'anxiété grâce au jardinage et plus largement au contact de la nature.
Je vous propose d'écouter quelques témoignages recueillis lors d'un micro-trottoir à Mende pendant le mois de décembre.
Donc alors cette nuit j'ai fait un cauchemar atroce, donc je promenais avec mes enfants, c'était l'été, et on arrivait sur un nid de vipères, donc en fait on était quasiment en train de les piétiner et ma fille s'est fait piquer. Et donc il a fallu que je la porte et que vite que je l'emmène aux urgences. Enfin voilà, c'était panique à bord.
Sur une expérience avec la nature, je sais que pour me ressourcer, je vais souvent... je vais marcher déjà parce que ça me fait du bien. J'ai besoin d'être en contact avec les éléments extérieurs à l'homme. Donc il y a souvent la rando des sources du Tarn que je fais là vers le Mont Lozère. Dès que j'ai des questionnements un peu importants dans ma vie, je vais faire cette rando-là. Elle me fait du bien. Ça me permet de me poser. Il y a le bruit de l'eau. Et juste ce moment-là d'écoute et de se recentrer sur soi et d'être à l'écoute de ce qui se passe autour. Bah, moi, je sais que ça me permet de faire le vide dans ma tête. Voilà. Et prendre des décisions et voilà, à faire évoluer ma vie.
Des couleurs. Des sensations au niveau du toucher, de l'ouïe et de l'odorat.
C'est la liberté, c'est les oiseaux qui chantent, c'est les fleurs, c'est la neige, l'hiver.
C'est une façon de se ressourcer, on oublie tous les soucis quand on marche dans la nature et que voilà, on se ressource, on est bien et on communie avec la nature.
Les témoignages de ce micro-trottoir nous amènent vers le besoin vital pour chacun d'entre nous d'un accès à la nature, bien-être, confiance en soi, construction de la personne, santé physique et psychique.
Voilà, des témoignages, des études sociologiques et psychologiques et les nouvelles avancées des neurosciences et des sciences cognitives démontrent la nécessité à tous les âges de la vie d'un accès diversifié à la nature.
Et pour les enfants ?
Eh bien, une méta-analyse de plus de 100 études sur les enfants des villes et leur environnement montre que lorsque la maison est proche de la nature, de la verdure, d'un petit bois, les enfants ont de meilleurs tests sur les troubles de concentration, la peur, la dépression et l'estime de soi.
Et pour les adultes ?
Eh bien, pour les adultes, au Japon, on pratique les shirin yoku, ou bains de forêt. Après 3 jours et 2 nuits passés en shirin yoku, pour les hommes d'affaires épuisés, les cellules de défense de l'organisme ont augmenté de 56%. Cette augmentation est restée stable jusqu'à 1 mois après le bain de forêt. Par ailleurs, le cortisol, hormone du stress très toxique pour la santé, est en diminution notable. Un groupe témoin identique, avec un même rythme et la même alimentation mais séjournant en vacances en ville, ne présente aucune variation des cellules de défense ni du cortisol. La nature, si elle ne prétend pas être une solution totale pour tous, est cependant un élément de thérapie considérable pour tous ou presque tous. Voici une observation de Martine Bonave, responsable éducative au foyer d'Acouz, sur le choix de la nature comme traitement thérapeutique associé. Elle dit « Nous constatons empiriquement, mais avec certitude, un effet de vase communicant entre la dose de nature absorbée par chaque résident et son semainier, ses médicaments chimiques. Plus les résidents consomment de nature, ferme, cheval, randonnée, promenade, parc, entretien des espaces verts, plus on peut, sans souffrance pour eux, baisser leur dose de médicaments. Moins ils peuvent sortir, plus ils souffrent, et plus il faut réaugmenter les doses médicamenteuses. Plus de nature donc, moins de souffrance psychique. Mais il s'agit bien de doses, d'effets thérapeutiques, pas de guérison. » Dans certains cas, la nature peut être prescrite comme traitement. Prenons l'exemple du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
Le TDAH, c'est une maladie des enfants et adolescents décrite en 2000 par l'Association américaine de psychiatrie. Il s'agit de comportements perturbateurs, de troubles ayant les symptômes suivants. Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège, se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis, souvent court ou grimpe partout dans les situations où cela est inapproprié, et bien sûr parle souvent trop.
Alors l'évocation de ces symptômes est extraite du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie. Troubles mentaux. Est-ce que c'est pas là juste des caractères d'enfants remuants à qui on pouvait dire avant « ben, va faire trois tours de la cour et revient » La réponse actuelle à cette maladie du XXIe siècle est la Ritaline, un psychotrope délivré quotidiennement aux enfants pour les calmer. Or, ce médicament agit uniquement sur les symptômes. Il calme, mais ne soigne en rien la maladie. On ignore ses effets secondaires sur l'enfant ou l'adulte. Actuellement, 8 millions d'enfants américains sont quotidiennement sous ce psychotrope. En Europe, 3% des enfants seraient hyperactifs, donc susceptibles d'être ou sont déjà sous Ritaline.
Un exemple concret ?
Elisabeth, 12 ans, est diagnostiquée hyperactive par son instituteur. Panique de la maman qui va consulter chez le médecin de famille. Diagnostic ?
Votre enfant est vive, turbulente peut-être, mettez-la dehors dans les bois, faites-la et laissez-la courir, jouer.
Merci docteur. Après ses courses dans les bois, Elisabeth a une scolarité normale. Pour aller dans le même sens, Kuo et Faber-Taylor, deux médecins américains, proposent une ordonnance originale à des enfants atteints de TDAH.
Oui, marcher dehors pendant 20 minutes.
Deux constats. Plus le parcours est vert, riche en verdure, plus les symptômes diminuent. Et surtout, après 20 minutes de marche, les enfants TDAH retrouvent une concentration proche de celle des autres enfants.
Dans certains cas, le TDAH correspond peut-être à des troubles nécessitant une médication.
Oui, mais on peut en conclure que la nature a vraiment un effet positif sur ces enfants.
Autre contexte, prenons une prison au Michigan.
Dans cette prison, les détenus dont la fenêtre donne sur une cour intérieure consultent le service médical, toute pathologie confondue, physique, psychique, psychiatrique, avec une fréquence 24% supérieure à celle des prisonniers dont la fenêtre donne sur la campagne. C'est quasiment un quart de maladie en moins à cause d'une simple vue sur la nature. Cette étude converge avec une avalanche d'autres études en psychologie environnementale et en éthologie animale et humaine qui révèlent la même chose. Le besoin de nature n'est pas propre à ceux que leur culture d'enfance ou leur sensibilité personnelle auraient amené à développer ce lien jusqu'à le rendre indispensable à leur équilibre et à leur épanouissement. Ce besoin serait commun à tous, inscrit en nous. Cette découverte chamboule l'appréhension du problème homme-nature dans nos sociétés. Nous devons basculer du paradigme de la nature pour ceux qui en veulent à de la nature partout et pour tous. Corentin, est-ce que toi-même, tu ressens ce besoin de nature ?
Oui. Moi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aussi. C'est aussi pour ça que je suis revenu en Lozère. J'ai besoin, oui, de je suis attaché à la nature. C'est une manière de se retrouver, de se ressourcer, tout simplement. Tout ce qui nous entoure, on sait que c'est complètement naturel, que rien n'a été transformé par l'homme, et je sais pas, il y a tout ce qui s'en dégage et reste positif, puisque c'est un peu l'explication de tout ce qui nous entoure, même nous, êtres humains, quoi. On débarque au milieu de tout ça, et c'est bien plus vieux que nous.
Et qui on est? Et où on va?
Voilà. C'est la nature qui nous donne ces réponses-là, et souvent quand on est dans le doute, etc., enfin, en tout cas pour moi, j'ai vraiment ce besoin-là, ouais, de me ressourcer dans les bois.
Voilà, l'accès à la nature se révèle bel et bien un enjeu de santé publique considérable. Je voudrais finir, si vous voulez bien, avec une citation d'Alexandre Dumas, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique nature. Les enfants devraient vivre au grand air, face à face avec la nature, qui fortifie le corps, qui poétise l'âme, et éveille en elle une curiosité plus précieuse pour l'éducation que toutes les grammaires du monde. Merci Corentin.
Merci beaucoup Muriel, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.